Bienvenue aujourd'hui dans Union et Désunion, l'émission qui parle d'Europe, présentée par Ulysse Gounel et Nathan Dardofin-Trosweg. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de l'Union des fédéralistes européens, représentée par ses deux porte-paroles, France Boucher et Charles Noll. Merci d'être ici.
Merci beaucoup, bonjour.
Bonjour, merci.
Et pour commencer, France et Charles, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors, j'y vais. France, moi, j'ai 46 ans, j'habite le nord de la France et donc je fais partie du bureau de l'UEF en tant que porte-parole.
Voilà, et moi, c'est Charles. J'ai 34 ans, je réside actuellement à Strasbourg après une décennie d'expatriation en Europe centrale et je fais partie de l'Union des fédéralistes européens depuis déjà plusieurs années et donc de son bureau national comme France depuis la fin 2025 en tant que porte-parole également.
Et peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est donc cette Union des fédéralistes européens. On a déjà interrogé des personnes des jeunes européens, de Pan-Europe, mais pour l'Union des Européens fédéralistes, c'est une première, donc on est curieux de découvrir cette association.
Donc déjà, effectivement, on est l'Union des fédéralistes européens, même si notre acronyme l'UEF vient de la formulation anglaise. Donc nous sommes une association qui est née à la fin de l'année 1946, à la suite de plusieurs initiatives pro-européennes et fédéralistes issues de la résistance. Et notre objectif, c'est l'objectif de promouvoir et à terme de créer une fédération européenne, c'est-à-dire une organisation dotée d'institutions supranationales sous contrôle démocratique et qui apportera, selon nous, la solution à de nombreux défis qui sont les nôtres depuis déjà des décennies. Donc, on va fêter à la fin de cette année nos 80 ans. C'est un anniversaire très particulier sur lequel on travaille déjà depuis de longues semaines. Et ça marque 80 ans d'engagement militant, associatif, de plaidoyer très intense. On a plusieurs grandes campagnes et quelques grands jalons de la construction européenne, mais aussi plus largement de développement des institutions internationales qui sont à notre crédit. Par exemple, l'UEF a activement participé au mouvement ayant conduit à l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, par exemple, à la fin des années 70. Ou encore, l'UEF a eu un rôle considérable dans les initiatives qui ont amené, par exemple, à la création de la Cour pénale internationale.
Je vais compléter aussi, donc effectivement on a parlé des 80 ans, en fait nous on est, enfin c'est un mouvement qui est issu de la résistance européenne antifasciste, donc nos pères fondateurs c'est Altario Spinelli et Ernesto Rossi, ainsi que Ursula Hirschman dans l'écriture et la diffusion du manifeste de Ventotene. Et donc cette résistance antifasciste elle résonne particulièrement aujourd'hui.
Merci. Et donc, comme tu as dit, cette résistance antifasciste résonne beaucoup aujourd'hui. Est-ce que c'est pour ça que vous avez rejoint l'Union des fédéralistes européens ou est-ce qu'il y a une autre raison ? Pourquoi vous y êtes engagé ?
Moi, mon engagement, donc, comme un certain nombre à l'UEF, ça a d'abord commencé par un engagement aux jeunes européens. Particulièrement, en fait, au moment de la crise des subprimes, ça remonte, hein, c'était 2008-2009, qui était une crise financière et à cause de sombres statistiques financières, on était prêt à remettre en cause à la fois l'union monétaire, la présence de la Grèce dans l'Union européenne. C'était aussi une période où il y a eu les printemps, un peu à la suite, les printemps arabes et donc Sarkozy et Berlusconi ont rediscuté de l'espace Schengen. Donc le lien avec la montée de l'extrême droite, il vient aussi pour moi de cette période, c'est-à-dire que depuis la crise financière, l'extrême droite n'a cessé de monter en flèche. Et je pense que là, on est sur un problème d'échelle de gouvernance économique. Donc c'était un moment où on faisait je ne sais pas combien de sommets de la dernière chance et en fait l'Union européenne intergouvernementale semblait bien inefficace. Donc oui, c'est aussi, ça a été aussi un lien. Moi, j'avais pas envie de voir l'Union européenne dans tous ses droits, disparaître. Voilà.
De mon côté, comme France d'ailleurs, j'ai rejoint la société civile pro-européenne et plus précisément fédéraliste à la fin des années 2000. Donc c'est un engagement déjà de plus de 15 ans. En revanche, il est vrai que j'ai connu un regain d'intérêt et d'activité depuis 2022 à l'occasion d'une succession de crises internationales et européennes qui ont davantage bouleversé les institutions et le consensus sur lequel on s'est reposé depuis sans doute un peu trop longtemps, notamment l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Aussi la croissance et la montée des mouvements nationalistes. 2022, c'était une nouvelle élection de Viktor Orban, par exemple, en Hongrie, des élections qui ont à nouveau lieu dans quelques semaines de l'autre côté des Alpes, et aussi une grande inquiétude vis-à-vis de la croissance de la désinformation, du populisme et des nationalismes, donc de notre côté de l'Europe, et peut-être aussi une remise en cause. Une remise en question des fondamentaux de la démocratie ou de la démocratie comme système de gouvernement et comme principe de gouvernement. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, notamment à la faveur d'un retour en France, de m'engager. Donc, il y a effectivement une connexion assez directe avec la résurgence des mouvements nationalistes et populistes, mais pas que. Le contexte international et je dirais même stratégique qui a beaucoup joué.
Merci beaucoup. Et donc, dans cette lutte, donc en grande partie antifasciste, européiste, fédéraliste, qu'est-ce qui vous différencie de tous ces autres mouvements européens? Parce qu'il y en a quand même un nombre assez gigantesque. Vous avez mentionné les Jeunes Européens, il y a aussi le Mouvement Européen, il y a Pan-Europe, il y a aussi des partis politiques, Volt, Ave Europa. Donc, il y en a tellement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes spéciaux? Et au fond, donc, quelles sont les idées de l'UEF, ces idées particulières, quel est son programme?
Alors déjà, tu mentionnais des partis politiques. Une première chose, c'est que l'Union des fédéralistes européens, c'est une association transpartisane. Bien entendu, on a une vision politique, on a des principes politiques. On ne s'interdit pas de parler de sujets, qu'on va dire, de politiques publiques qui peuvent être définis selon parfois des lignes partisanes, mais toujours avec un angle et une approche fédéraliste. Donc déjà, c'est une première distinction avec des formations qui ont pour objectif d'entrer dans le jeu électoral. De surcroît, il faut dire qu'on travaille en très étroite collaboration et en complémentarité avec des associations comme les Jeunes Européens et le Mouvement Européen. Peut-être ce qu'on peut dire pour essayer de définir l'ADN un peu plus spécifique de l'Union des fédéralistes européens, c'est que bien entendu, on a ce projet fédéraliste, qui est un projet qui va peut-être plus loin que des projets ou des valeurs purement européistes. À ce titre-là, je pense pouvoir dire qu'on peut se considérer comme des pionniers, ou si vous me pardonnez l'expression un peu martiale, comme une avant-garde. On est également une organisation très militante. Donc peut-être que par rapport à d'autres associations qui ont avant tout un objectif de diffusion de l'information, de promotion de valeurs ou de pédagogie, nous, notre boussole au quotidien, c'est de promouvoir avant tout un projet politique qui est donc celui de fédération européenne.
Et donc, plus concrètement parlant, quelles sont vos actions en ce moment même et quels sont les projets sur lesquels vous travaillez?
Alors, par exemple, on fait justement campagne. Charles parlait du Mouvement européen et des Jeunes européens. Donc, on est partenaire sur la campagne avec eux pour les municipales. Une campagne qui s'intitule "L'Europe commence dans nos communes". Donc, en fait, avec la diffusion et la signature de chartes auprès des listes candidates des municipales. En fait, effectivement, c'est très important parce que ça touche, on sait que la citoyenneté, et on est très attaché au principe de subsidiarité, donc en fait, la démocratie commence sur le terrain. Donc on est actif dans cette campagne. On a aussi en fait un format qui est un format, par exemple, jour fixe, donc tous les deuxièmes mercredis du mois, on organise des petites conférences en ligne ou en présentiel. Sur des thématiques qui nous intéressent. Donc, par exemple, le fédéralisme en France, les mouvements, l'histoire des mouvements fédéralistes. Enfin, ça peut être aussi un format de formation et d'accueil des nouveaux adhérents. Voilà. Après, on a différents événements. Je vais laisser Charles les présenter.
Oui, très bien. Effectivement, donc on a au-delà de notre rôle de plaidoyer, de militantisme, un rôle d'information et de formation. Donc, en plus de ce qu'a mentionné France, on organise tous les ans une université de printemps à Lyon. Cette année, ça aura lieu les 17, 18 et 19 avril. C'est par exemple un événement assez classique que nous organisons qui comprend à la fois des moments de formation et d'interaction entre nos membres et nos organes et une partie plus colloque, je dirais même scientifique, mais qui a vocation aussi à s'adresser au grand public pour évoquer, analyser les problématiques que France vient de décrire. Au-delà de ça, un événement que nous avons lancé l'année dernière en coopération avec les jeunes européens et le mouvement européen, c'est une école d'été de la paix et du fédéralisme qui s'intitule l'Académie Louis Weiss, qui a lieu dans la petite ville de Saverne en Alsace, et légataire universel de Louis Weiss, qui était une grande militante européiste et féministe, et au cours de laquelle une petite centaine de participantes et de participants de toutes les générations d'ailleurs, francophones, se rendent à Saverne pour échanger, débattre, discuter, peut-être remettre en question un certain nombre de postulats sur ce que représentent les valeurs européennes et sur la façon dont l'Europe peut répondre, se positionner avec un angle fédéraliste par rapport à une actualité qui est aujourd'hui très, très difficile. Au-delà de ça, il y a évidemment un réseau auquel on fait partie, l'UEF, s'attache à échanger à la fois avec d'autres parties de la société civile, avec le monde universitaire, avec les médias également, mais aussi avec, bien sûr, les formations politiques, les décideurs, hein, d'une certaine façon, les influenceurs, pour porter le projet qui est le nôtre et aussi le populariser, sachant que dans le débat public en France, parfois, le mot de fédéralisme amène à beaucoup d'interprétations et parfois des préconçus ou des présupposés qu'il incombe de corriger ou de rectifier, voire de nuancer.
Donc voilà, par exemple, ça passe aussi par la rédaction de tribunes qui sont diffusées et signées dans nos réseaux. Aussi au travers de, on est aussi attaché à l'union des Européens fédéralistes au niveau européen qui sont aussi actifs. Donc c'est aussi un réseau de diffusion de nos idées à tous les échelons de la démocratie. Et enfin, je rajoute aussi que sur les événements, on fêtera, comme on a dit, nos 80 ans également, en plus des universités, de l'Université de Lyon, de l'Académie Louis Weiss, on fêtera nos 80 ans fin décembre cette année.
Merci beaucoup pour ce panorama. Et je vous propose qu'on passe à une petite discussion sur l'actualité, mais qui ne sera pas sans lien avec ce qu'on a pu dire avant, vu que vous avez mentionné, notamment dans les raisons de votre engagement, que c'est face à des échecs chroniques de l'Union européenne à réagir aux crises. Et donc, à ce sujet, on aimerait bien savoir comment vous percevez en tant qu'UEF ces difficultés de gouvernance qu'on voit beaucoup, notamment avec la guerre en Ukraine, mais aussi aujourd'hui avec les relations avec les États-Unis. Cette difficulté d'avoir une voix unie, notamment sur les affaires étrangères, mais pas que, malheureusement. Il y a d'ailleurs des projets actuellement pour passer à une Europe à plusieurs vitesses. Donc, quelles sont toutes vos propositions sur ce plan institutionnel et comment vous voulez faire pour qu'on arrive effectivement vers une Europe qui soit fédérale?
Alors, en fait, ce que on voit que l'Europe actuelle, c'est un peu ce qu'on a évoqué précédemment, elle a un problème d'efficacité. Donc, en fait, elle ne peut être crédible et efficace que si elle est fédérale, notamment sur la question de la défense européenne. Une défense européenne implique d'avoir un exécutif. Donc, ça nécessite en fait un saut fédéral. Donc, aujourd'hui, moi personnellement, je suis convaincue que ce saut fédéral se fera avec la société civile. En fait, on ne peut pas demander aux exécutifs actuels des États membres de changer le système de l'intérieur. Il faut vraiment que ça vienne par nos représentants élus au suffrage direct, par le législatif et donc avec une pression de la société civile. C'est pour ça qu'on parle à tout le monde, en fait, et on essaye de bouger cette société civile. Donc, voilà un peu comment on peut faire un premier élément de réponse.
Oui, je peux prendre l'angle de la défense, puisqu'on sort au moment où on enregistre de la conférence sur la sécurité à Munich. Je pense que c'est devenu un lieu commun hein, d'indiquer que les menaces pesant sur l'Europe sont en croissance entre la guerre informationnelle, le désengagement des États-Unis, le retour des conflits de haute intensité. Et comme le soulignait France, aujourd'hui, l'Union européenne, telle que la considère l'UEF, est inadéquate pour répondre à ces défis. Il y a des enjeux d'inefficacité, de doublons, de surcoûts, de difficultés des programmes de coopération. On n'a pas de véritable capacité de décision stratégique européenne, puisqu'on a des différends persistants sur les questions de politique étrangère, de défense et de sécurité. Et nos capacités d'influence sont naturellement réduites. Pour cela, on aurait besoin d'une décision unifiée, de politique plus que commune, mais de véritable politique européenne fédérale définie au niveau européen et mise en œuvre au niveau européen, avec bien sûr en corollaire des ressources et un niveau de commandement qui soit unifié et suffisamment mobilisé. C'est pour cela que dans le projet fédéraliste, il y a toujours la question qui revient en permanence, c'est la question de l'unanimité. Donc, bien entendu, on parle souvent des décisions que prend Bruxelles. Alors, parfois, l'Union européenne a quelques compétences exclusives où elle a la main, notamment en matière commerciale, mais dans l'essentiel des politiques publiques qui devraient relever du niveau européen, énormément de décisions relèvent du niveau des États, c'est-à-dire de 27 chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent à Bruxelles et n'importe lequel, quel que soit le pays qu'il représente, la majorité avec laquelle il a été élu, les conditions dans lesquelles il a été élu, peut apporter un veto à toute décision ambitieuse. Et donc, on propose très concrètement des mesures très simples, l'abandon de l'unanimité dans les institutions qui représentent les États, le fait que le Parlement européen ait le droit d'initiative législative, c'est-à-dire puisse proposer toutes ces lois, que davantage de compétences soient clarifiées entre le niveau européen, le niveau national, mais aussi des niveaux inférieurs comme le niveau régional, voire même le niveau communal. Il y a aussi deux éléments de contexte, mais je pense que France pourra aussi en dire davantage à ce sujet. On parle souvent du projet fédéraliste comme d'un projet unificateur, centralisateur, voire même autoritaire au niveau européen. En fait, c'est tout le contraire. Le projet fédéraliste, c'est un projet de séparation des pouvoirs, de séparation des compétences. Les compétences sont exercées par défaut au niveau le plus proche des citoyens, le niveau le plus bas de l'action publique. C'est aussi un projet qui est démocratique. Toute décision qui doit être prise doit l'être dans le cadre d'un contrôle démocratique, que ça soit au niveau d'une toute petite commune ou par le Parlement européen. Et enfin, je m'arrêterai là-dessus, mais on a commencé à parler de défense, c'est un projet de paix. Parce que sans être BA ou Euro-BA, on considère que même dans le cadre d'un projet ambitieux de forces armées européennes, notre objectif final, ça doit être celui de pouvoir prévenir les conflits de façon durable et pérenne.
Effectivement, on a parlé de ça, c'est extrêmement important, on a parlé d'efficacité. La meilleure façon de ne pas faire la guerre, c'est encore de la préparer, c'est donc du coup d'avoir une crédibilité. Et en fait, le projet en fait de notre association, le projet politique, c'est vraiment un projet de paix. Donc, c'est également la diplomatie, le respect du droit international. Et pour ça, c'est extrêmement important pour nous. Mais c'est vrai que voilà, c'est, encore une fois, tant qu'on sera, on n'aura pas d'Europe politique, on aura un problème de positionnement et de crédibilité. Donc, ça vient vraiment de nous. On sait que dans les conflits, l'importance de l'opinion publique, l'importance de la résistance, c'est déjà une force de dissuasion énorme.
Merci pour cette réponse, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Alors, parce que sur le sujet de la défense européenne, on en parle beaucoup en ce moment, il y a quand même deux choses qui arrivent en ce moment, notamment le fait que Mark Rutte, donc le secrétaire général de l'OTAN, ancien Premier ministre néerlandais, a dit devant le Parlement européen que sur une défense européenne, continuait de rêver. Et en parallèle, le projet SCAF, qui était un peu le projet futuriste européen, est en train de s'autodétruire avec l'Allemagne qui menace de partir vers l'Italie et les industriels français qui disent qu'il faudrait juste créer son avion soi-même. Donc face à ces faits de terrain, qui ne sont même pas forcément au niveau européen, qui sont juste entre les pays, est-ce que vous ne pensez pas que mettre les 27 autour de la table pour une réforme institutionnelle qui permettrait, selon vous, une Europe de la défense, ce soit un peu compliqué? Est-ce que vous ne savez pas Quel est votre avis sur cela?
Je vois France me passer la patate chaude. Très bien. Alors, d'ailleurs, c'est un élément intéressant en tant que responsable des enjeux de positionnement et de porte-parole. On est bien sûr amené à réagir et à se positionner sur des déclarations de personnalités publiques, de penseuses et de penseurs, mais avant tout pour promouvoir un projet et des idées concrètes et positives. L'Europe a été en grande partie tétanisée depuis le discours du vice-président américain J.D. Vance à Munich l'année dernière. Ça s'est d'ailleurs vu en effet de miroir ce week-end quand le secrétaire d'État Marco Rubio a prononcé un discours autrement plus conciliant et qu'il y a eu un grand soupir de soulagement. Pour autant, je crois que personne, ni dans les cercles dirigeants, ni dans les forces politiques européennes de tous bords d'ailleurs, n'est dupe du fait que les États-Unis se désengagent de l'Union européenne. Il y a notamment eu un retrait partiel de bases américaines récemment en Roumanie et en Bulgarie, des discours encore très ambigus sur le Groenland. Donc, à mon avis, il y a une prise de conscience progressive de l'importance d'une Europe autonome et indépendante en la matière. Tu mentionnais la question du SCAF, qui est alors un projet industriel intergouvernemental entre États et qui est la parfaite illustration des limites de l'Union européenne dans laquelle on progresse actuellement, c'est-à-dire de la logique de compétition et de rivalité qui nous empêche de mettre en place des programmes ambitieux et de réfléchir à l'intérêt supérieur européen. Le problème, effectivement, c'est que dans la logique institutionnelle actuelle de l'Union européenne, on est actuellement dans l'ornière et beaucoup de décisions, notamment de réforme des traités, impliquent un accord à 27 États membres et impliquent a priori l'accord de 27 États via des votes parlementaires ou des référendums. Parfois, c'est nécessaire. Et donc, comme le soulignait France, ça implique pour la société civile de se mobiliser et d'avoir aussi un grand mouvement de plaidoyer et de promotion de nos idées par le bas. Il y a aussi des éléments aussi très, très simples, très factuels, qui peuvent être mis en avant et qui parfois peuvent être très concrets. Selon le service de recherche du Parlement européen, la mise en place d'une défense fédérale européenne permettrait d'économiser, je dis bien d'économiser, entre 25 et 125 milliards d'euros par an. C'est aussi des arguments financiers qui sont beaucoup plus bas de plafond, mais qui peuvent avoir leur importance et leur impact dans le débat public. Donc, effectivement, c'est une tâche colossale que de défendre un projet constitutionnel qui nécessite actuellement une unanimité, mais c'est pour ça que des associations comme la nôtre doivent être actives et doivent pouvoir croître dans le débat public.
En fait, pour compléter, on dit souvent que le saut, ce qu'on disait, c'est que le saut fédéral, il vient aussi par nécessité. C'est-à-dire que, en fait, de toutes les façons, on voit bien justement les limites de l'intergouvernementalisme. Et donc, quand on est face à un danger extérieur, c'est là qu'on se dit il faut être plus efficace. Donc, c'est justement le contexte international qui peut nous pousser au vu de ce qui se passe, parce que c'est pas nous qui avons la main, en fait. Hein. Donc, en fait, on est obligé de réagir. Donc, quelque part, moi, je suis plus optimiste en me disant que les bascules institutionnelles, elles peuvent arriver très vite. Effectivement, ça ne passera pas par les 27 États. Ça passera par une pression parlementaire ou une pression constituante, en fait. Mais ça sera aussi parce qu'on sera sous pression de l'extérieur. Et il y a énormément d'enjeux qui, aujourd'hui, mettent nos démocraties sous pression. Il va falloir faire des choix et ça viendra de la société civile. Sont des points de bascule, en fait. La question des points de bascule, c'est toujours la même question. En fait, on la maîtrise pas, en fait. On ne maîtrise pas la chronologie exacte.
Parfait, merci. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Alors, dernière question très rapide. En un mot, Franck-Charles, quelle serait la première chose qu'il faudrait réformer dans l'Union européenne maintenant ? Si vous aviez une baguette magique, première chose à réformer comme ça, en un mot.
Je vais reprendre celle de Charles. C'est vrai que c'est la règle de l'unanimité et véritablement de redonner la main au Parlement européen, à l'initiative législative au Parlement. Je pense qu'au niveau de son fonctionnement, moi, c'est ce que je pense.
Moi, si j'avais une mesure à proposer, ce serait la mise en place de listes transnationales dans le cadre des élections européennes. Alors, c'est une mesure très technique qui ne parlera pas forcément à toutes les auditrices et tous les auditeurs, mais on a dans le cadre des élections européennes un accaparement des enjeux du débat par la situation politique nationale. Et ce que nous proposerions en tant qu'UEF, c'est d'avoir une liste de candidats qui soit continentale, qui bien sûr reflète la diversité géographique de l'Europe, mais qui permette vraiment de faire monter les enjeux européens et les enjeux les plus importants face à laquelle notre continent est confronté dans le cadre du débat en 2029. Donc voilà ce que je proposerais. Et étant donné la difficulté qu'on peut avoir à défendre et à promouvoir cette proposition, notamment auprès des dirigeants européens, autant commencer maintenant, même si bien sûr des problématiques plus urgentes vont arriver et se faire entendre dans les mois et les années à venir.
Merci beaucoup, France-Charles. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous. Une très belle discussion. Et donc, c'est déjà la fin de cette 6e émission d'Europe Union et Désunion. Nous espérons que l'écoute aura été agréable et que l'Union européenne ainsi racontée devient tout à coup plus intéressante. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Et dans l'intervalle, n'hésitez pas à partager celle-ci sur les réseaux sociaux ou à vos proches. Et surtout, soyez européens.